voici entre les Bushmen au Qatar oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai été de nous convoquer au Qatar oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux acquis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine en compagnie des Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Les groupes parlementaires de l'opposition Mouvement de Libération du Congo MLC et Alliés a déposé le mercredi 30 mai dernier un mémorandum au parquet général de la République pour réclamer des poursuites judiciaires contre des anciens ministres de tous les gouvernements entre 2007 et 2011 qu'ils accusent d'enrichissement illicite. Et sans les citer, le président de ce groupe parlementaire, Jean-Lucien Boussa, a affirmé que certains membres du gouvernement dirigés par les premiers ministres Gizenga et Mouzito n'ont jamais déclaré leurs biens dans les 30 jours qui ont suivi la fin de leurs fonctions respectives, violant ainsi l'article 99 de la Constitution. Ces mémorandums fait suite à la motion déposée à l'Assemblée nationale par les députés MLC Fidel Babala qui demandait la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour surveiller la déclaration écrite du patrimoine du chef de l'État congolais Joseph Kabila et des membres du gouvernement conformément à l'article précité. S'inscrivant dans la même logique, l'ONG de défense des droits de l'homme Toge Noir s'était par ailleurs réjouie de la déclaration du patrimoine des ministres du gouvernement actuel à la Cour suprême de justice. Que pensez-vous de la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions? Nous en parlons avec le professeur Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel. Titi Mputu assure la réalisation de cette émission mise en onde par Paul Badeniamon. Nicole Ngaka est à la supervision. Pierrot est la mise à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiookapi.net.
Et pour intervenir en direct, appelez-nous au 081-890-6315, 081-890-6315. Vous pouvez également déposer un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ces commentaires seront exploités dans cette émission. Nous avons déjà en ligne le professeur Gaspard Ngondankoy qui est notre invité. Professeur, bonjour.
Bonjour, mon ami.
Nous allons ensemble avec les auditeurs nous pencher sur la problématique de la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions. Et puis, qu'est-ce que les auditeurs pensent de tout cela? On sait qu'il y a eu cette polémique au niveau de l'Assemblée nationale, la motion d'un député qui pensait qu'il fallait une commission d'enquête pour se rendre compte effectivement de biens qui ont été déclarés. D'un côté aussi, un groupe parlementaire qui a déposé un mémorandum auprès du procureur général de la République sollicitant des poursuites judiciaires contre des anciens ministres n'ayant pas déclaré leurs biens. Nous allons écouter ce que les auditeurs en pensent, mais bien avant peut-être d'écouter les uns les autres, la première question que je m'en vais vous poser, professeur, c'est de savoir pourquoi le constitutionnel a-t-il placé cet article 99 dans la Constitution qui dit bien sûr qu'il faudrait que le président de la République, les membres du gouvernement puissent déclarer leurs biens, que ce soit avant ou après l'exercice de leurs fonctions. L'avantage de cet article au sein de la Constitution, professeur.
Merci beaucoup, cher ami, de m'associer une fois de plus à ce débat. Qui, vous le savez, tout le temps, c'est une émission à caractère didactique pédagogique qui permet à notre population de connaître la Constitution et les lois de la République. Je crois que ce que le constituant a visé, la motivation qui a déterminé le constituant, c'est tout simplement le souci de la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est-à-dire que cela découle du fait que depuis la conférence nationale souveraine, il y a eu beaucoup de dénonciations concernant la gestion des affaires publiques. Beaucoup de gens ont dénoncé entre autres le fait que les responsables publics confondaient le patrimoine public avec leur propre patrimoine. Et on constatait effectivement que ceux qui entraient dans les fonctions ministérielles et autres, on sortait avec un patrimoine qui n'avait pas avant et qui ne savait peut-être pas aussi justifier. C'est pour cette raison que pour essayer d'insuffler une certaine transparence dans la gestion des affaires publiques, que le constituant a intégré cet élément dans la Constitution. Mais il faut tout de suite ajouter que nous ne sommes pas les seuls. beaucoup de pays dans le monde qui vivent dans le même souci ont intégré ce genre de dispositions, soit dans la Constitution, soit dans les lois de la République. Il s'agit ici effectivement de faire en sorte que le responsable public gère correctement le bien public et qu'il est redistribué équitablement à tous les citoyens qui en sont bénéficiaires. Mmh. Je pense que c'est ça la motivation profonde.
Voilà. Et si on écoute, il y a par exemple un auditeur qui nous a écrit, c'est Fiston Ibutu qui est à Goma. Il dit ceci, pourquoi les déclarations des biens du président de la République et des membres du gouvernement ne sont pas rendues publiques? Comment, comme nous l'avons vu ailleurs, il a donné l'exemple du Sénégal, pour lui, il a peur, parce que, en fait, il y a à l'alinéa de cet article 99 qui dit la Cour constitutionnelle communique cette déclaration à l'administration fiscale. Mais pourquoi n'avoir pas peut-être recouru à une publication officielle, que ce soit par exemple dans les journaux officiels, pour que le média, la population, tout le monde entre en possession de cette déclaration, qu'on sache effectivement qu'est-ce que le président de la République, qu'est-ce que le ministre ont pu déclarer. C'est l'inquiétude d'un auditeur de Goma. Pour lui, il pense qu'il n'y a pas assez de transparence quand on ne connaît pas les contenus de cette déclaration.
Voilà, encore une question intéressante. Bon, ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que dans la Constitution, justement, comme vous l'avez dit, ce qui est prévu, c'est que la Cour constitutionnelle, dans les 15 jours de la réception de la déclaration, la communique à l'administration fiscale. Mm-hmm. Dans notre pays, c'est la direction générale des impôts. La loi sur la Cour constitutionnelle qui a été adoptée l'année dernière et qui, de mon point de vue, en vertu de l'article 140 de la Constitution, est déjà entrée en vigueur, prévoit en outre que cette déclaration doit être, en tout cas une copie de cette déclaration doit être envoyée à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mm-hmm. Mais la loi ne précise pas si l'administration fiscale, tout comme l'Assemblée nationale et le Sénat, ont l'obligation de rendre public. Je crois que si ce n'est pas précisé, c'est parce que, comme vous le savez, le patrimoine de quelqu'un, c'est quand même partie de sa vie privée. Mm-hmm. La Constitution garantit également la vie privée de tout le monde. Donc, pour ne pas exposer les responsables publics, les ministres, le président de la République, comme ça, je crois que le choix de notre Constitution a été de considérer que ce patrimoine peut être connu uniquement par l'administration fiscale et par le responsable public au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce n'est que au moment où il y a soupçon d'enrichissement illicite. Mm-hmm. Ce n'est qu'au moment où il y a enrichissement sans cause. Ce n'est qu'au moment où il y a absence de déclaration que la Constitution et la loi prévoient que, dans ces deux conditions-là, soit la Cour constitutionnelle, soit la Cour de cassation sont saisies. L'une ou l'autre sont saisies, dans le premier cas, pour des poursuites pénales, mm-hmm. et l'autre, dans le second cas, pour des poursuites également pénales, mais également pour des décisions concernant la destitution, etc. Mm-hmm. Donc, dans notre système, la publicité, ou si vous voulez, la publication des déclarations du patrimoine n'est pas prévue, sauf au niveau de l'administration fiscale et au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'innovation introduite par la loi sur la Cour constitutionnelle. Mm-hmm. Donc il s'agit de protéger la vie privée. Mm-hmm. Tant qu'il n'y a pas de soupçon, bah, puisqu'on peut tout aussi concevoir que le président de la République et les membres du gouvernement gèrent parfaitement bien le bien public. Mm-hmm. Et donc, ça ne sert à rien de pouvoir publier leur patrimoine privé qui relève tout de même de leur vie privée.
On va vous garder en ligne, professeur. Il y a aussi cette question autour de la véracité des contenus des déclarations. Comment la Cour suprême, parce qu'on n'a pas encore là la Cour constitutionnelle, comment la Cour suprême, comment aussi l'administration fiscale, peut-être avant qu'on écoute les auditeurs cette question, comment peuvent-ils se rendre compte de la véracité, bien sûr, de ces déclarations? Y a-t-il un mécanisme de vérification? Ou bien on reçoit juste la liste, on transmet aussi à l'administration fiscale, l'administration fiscale prend acte. Y a-t-il un mécanisme de vérification pour se rendre réellement compte que ce qui est déclaré et c'est vrai, ce que possède le président de la République, tout comme les membres du gouvernement?
Dans le cas actuel de la législation, rien n'est prévu, rien n'est clair non plus. Mais ce que nous savons, c'est que la Constitution prévoit qu'une fois que la déclaration déposée à la Cour suprême de justice qui en prend acte, la Cour la communique à l'administration fiscale. Comment la Cour le fait? Sans doute, la Cour va ouvrir les enveloppes, parce qu'elle ne peut communiquer à l'administration fiscale que le document qu'il a vu et qui photocopie, qui l'envoie à l'administration fiscale. Et d'ailleurs, si la loi sur la Cour constitutionnelle dit qu'une copie est envoyée à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça veut dire qu'en d'autres termes, les enveloppes sont être ouvertes. Et on les envoie sous plus fermé, maintenant à l'administration fiscale et à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Voilà.
Dans beaucoup de pays, c'est d'ailleurs la procédure du secret qui domine. Dans certains pays, on dit, dont on dépose la déclaration fiscale, la Cour la reçoit. La même déclaration est également déposée à l'administration fiscale et les enveloppes restent sous pli fermé jusqu'au jour où il y a une plainte officielle et une décision de justice ordonnant l'ouverture de l'enveloppe.
Okay.
Mais dans notre système, à lire la loi entre les lignes, on a l'impression qu'effectivement la Cour suprême de justice peut ouvrir les enveloppes ou en envoyer la copie et à l'administration fiscale et au Parlement, Assemblée nationale et Sénat.
On vous garde en ligne, professeur. Nous allons écouter les auditeurs, ce qu'ils pensent de la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions. Bravo et à Guémena dans la province de l'Équateur, Mpia et à Kisangani en province orientale. Vous avez besoin d'intervenir, poser la question ou émettre votre point de vue. Appelez-nous au 081-890-6315. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Bravo, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Que pensez-vous de la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions?
Merci beaucoup pour m'avoir laissé cette émission, et je remercie effectivement notre invité. Et ce qui m'accorde un petit peu plus, monsieur le journaliste, c'est deux déclarations, soit du gouvernement Mouzito, soit du gouvernement Matata, ça donne un exemple au gouvernement face au gouverné. Vous savez, quand le gouvernement Mouzito a voulu quitter, il n'a pas pu déclarer. Et c'est aujourd'hui que l'MNP pour les mêmes projets à la justice, le gouvernement Matata déclare ses biens. C'est pour pouvoir la population. Mais nos soucis, la population, notre souci en est que cette procédure puisse aller jusqu'au bout, qu'il ne puisse pas se limiter et ne puisse pas se limiter à court terme. Parce que souvent, quand les parents se s'affichent, vous verrez qu'il y aura des blocages par-ci par-là et les montées, il n'ira pas jusqu'au bout. Nous voulons à ce que la justice puisse trancher au public les problématiques liées aux gestions de données publiques. Les données publiques, c'est les données de la population. Comment imaginer tout le monde qui passe par la route de la gouvernance, ils sont avec quelque chose toujours dans la poche. Mais la population qui en souffre n'en bénéficie rien. Alors, nous voulons que cette fois-ci, que la justice puisse faire ce travail convenablement, sans mais là-dessus. Et en fait, je voudrais aussi poser une petite question à notre invité. Il a parlé de la transparence, monsieur le journaliste. La transparence dans la gestion des deniers publics de la République démocratique du Congo, nous le voyons souvent flou. Parce que, une fois que les mafieuses qui est rendu public, vous verrez que on n'ira pas jusqu'au bout.
Voilà. Donc, si on vous écoute, bravo, votre souci, c'est que, en fait, ce qui concerne la démarche du MLC, vous souhaitez que ce mémorandum puisse aller jusqu'au bout. S'il y a des gens, des ministres, des anciens ministres qui n'ont pas pu déclarer leurs avoirs à la sortie, bien sûr, qu'ils soient poursuivis comme la loi le dit. Et même, ça a été aussi le souhait de l'ONG, comme je le disais, Toge Noire, en ce qui concerne, bien sûr, cette ONG des droits de l'homme, qui a aussi souhaité qu'on aille jusqu'au bout et que ceux qui sont concernés, s'il y a bien sûr ces soupçons, puissent être traduits. Parce que qu'est-ce que la loi dit? La loi dit ceci: dans les 30 jours suivant la fin des fonctions, faute de cette déclaration, en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause, la Cour constitutionnelle ou la Cour des cassations est saisie selon les cas. Et le professeur pourra nous expliquer qui peut saisir, que ce soit la Cour constitutionnelle ou la Cour des cassations, en cas de non-déclaration, et aussi en ce qui concerne la démission pour un membre du gouvernement qui n'a pas pu déclarer ses biens, qui peut déclarer cette démission. On va écouter le professeur, juste le temps qu'Mpia, qui est à Kisangani, puisse s'exprimer. Mpia, vous êtes en ligne, bonjour.
pour manger, mais c'est vrai, c'est le métier.
On vous écoute, monsieur.
Ok, merci beaucoup. Je commence mon propos à dire que si nous, en relations internationales, nous vivons plus un système est fermé, plus grand est le danger sur les guettes. Je me fais quand même l'obligation de marier mon propos avec celui du professeur Bertha Badi. Quand il dit ceci, l'inégalité sociale crée la frustration.
Mm-hmm.
La frustration crée l'humiliation. Et l'humiliation crée les radicalismes. Donc vous comprenez que nous devons travailler pour le bonheur de tous les Congolais. Bon, je félicite quand même le premier ministre en train, parce qu'il a fait montre de sa bonne foi et son gouvernement pour aller déclarer leurs avoirs devant la Cour constitutionnelle, ce qui est une bonne chose. Bon, je profite aussi de cette occasion pour féliciter quand même l'opposition qui a bien voulu acclamer cette procédure-là, ou disons cette procédure-là. Maintenant, moi je me demande si est-ce que la Cour sera ou la justice sera indépendante quant à ceux qui se sentiront inculpés ou coupables. Parce qu'on doit quand même poursuivre ceux qui ont dirigé, disons, hier, parce qu'ils n'ont pas pu faire cela. On a vu des ministres s'enrichir de manière vertigineuse et sans cause. Est-ce que le professeur peut nous assurer que la justice sera pour le travail du
ministre? Voilà, merci. Pierre de Kistangani, vous avez d'ailleurs vous féliciter l'équipe gouvernementale actuelle qui a accompli ses devoirs de déclarer ses avoirs, bien sûr, au niveau de la Cour suprême. Mais votre souci est que par rapport à ce qui s'est déjà fait, l'initiative du MLC, vous souhaitez que tout cela puisse aller jusqu'au bout. S'il y a des gens qui ont pu marcher en dehors de la loi, qu'ils puissent être poursuivis, c'est le souhait aussi de notre ami Bravo de Guéménan, c'est le souhait aussi de Léonard Moulindaké à Cape Town en Afrique du Sud qui dit ceci. La démarche du MLC n'aboutira à rien pour lui, il a peur. Il dit, tu peux nous dire exactement quand est-ce que cette déclaration a été appliquée? Je reconnais la réponse de la Cour suprême de justice qui pourra dire plainte du MLC recevable mais non fondée par manque de preuves. Je ne sais pas s'il faudrait faire confiance à la justice. Pour lui, il dit, la déclaration des biens de membres du gouvernement est une obligation. Ce n'est pas négociable. Qui connaît la fortune du chef de l'État, qui connaît la fortune des anciens ministres? J'entends d'autres personnes dire qu'on l'a fait discrètement, mais pour moi, je pense qu'il fallait le faire publiquement. Mais lui aussi a trop peur. Donc, Richard, gardez la ligne. On revient à vous directement, professeur Gaspard. Vous avez suivi l'inquiétude de ces auditeurs. Il y en a qui sont réjouis par le fait déjà que le gouvernement l'ait fait. Mais par rapport à la démarche du MLC, vous aviez suivi ensemble avec nous aussi au niveau de la plénière à l'Assemblée nationale. Un député avait initié qu'il fallait une commission d'enquête parlementaire pour se rendre compte de ce qui a été déclaré. On a pensé que c'était pas vraiment ça, c'était pas réglementaire, mais d'un côté, le MLC va saisir la justice. Il y a deux questions. Et la première que je m'en veux vous poser, c'est par rapport à ce que la Constitution dit. Donc, on doit saisir la Cour des cassations, la Cour constitutionnelle, selon l'État, qui doit en principe saisir. Et puis, on doit déclarer le ministre qui n'a pas déclaré démissionnaire, qui doit les déclarer démissionnaire. Et puis, l'inquiétude des auditeurs, c'est de savoir si cette procédure, la demande du MLC peut aller jusqu'au bout, professeur.
Je vous remercie encore une fois, cher ami, pour cette question de l'auditeur. Bon, j'ai entendu, comme tout le monde, que le MLC a déposé effectivement le mémorandum à l'Office du procureur général de la République, mais j'en ignore le contenu. J'ignore d'ailleurs qui est visé par ce mémorandum. Est-ce le ministre sortant du gouvernement Mobutu ou le ministre entrant?
Oui, professeur, pour plus de précision, le MLC a saisi par rapport au ministre sortant, dit qu'il y a quelques ministres qui n'ont pas pu déclarer, n'ont pas pu citer les noms dans ces informations que nous avons. Mais le MLC dit ceci, qu'il y a des ministres qui n'ont pas déclaré leurs avoirs à la sortie. Et puis, il y a aussi ces rapports 2009, n'est-ce pas, d'une commission parlementaire sur la gestion, n'est-ce pas, de l'exécution de la loi financière 2009. Il pense qu'il y a eu beaucoup de ministres qui ont été cités dans soit détournement, soit mégestion. Il pense qu'il serait mieux que le procureur puisse saisir de ces dossiers. C'est par rapport à ceux qui ont travaillé dans les gouvernements passés.
Alors, puisqu'il s'agit des membres du gouvernement sortant, ce qui se dit, c'est qu'effectivement, la loi prévoit qu'à la sortie du gouvernement, donc à la fin des fonctions, dans les 30 jours qui suivent, on doit faire la déclaration du patrimoine pour permettre la vérification s'il y a eu enrichissement illicite ou enrichissement sans cause, etc. etc. Alors, dans ces conditions-là, s'il y a soupçon d'enrichissement illicite, d'ailleurs, la première question se pose là, qui peut saisir la Cour?
Voilà.
C'est toutes les parties. La loi dit que la Cour est saisie soit à la requête des partis, soit à la requête du procureur général de la République. Toutes les parties, ça suppose aussi tous les citoyens, tous ceux qui sont intéressés et qui ont des informations précises susceptibles de leur permettre de soutenir leur accusation devant la Cour. Puisque beaucoup de citoyens n'ont pas ce genre d'informations, ne sont pas outillés, généralement, ce que les citoyens font, c'est de déposer une plainte à l'office du procureur général de la République qui va instruire le dossier, qui va entendre le ministre concerné et qui, par la suite, va saisir la Cour constitutionnelle selon la procédure prévue par la Constitution. Alors, je précise ceci. Puisqu'il s'agit d'un ministre sortant, il faut distinguer le cas des ministres sortants qui sont entre-temps élus députés nationaux, des ministres qui sont sans fonction. Les ministres qui sont sans fonction, pour les ministres qui sont sans fonction, il n'y a aucun problème. Le procureur général de la République peut immédiatement les interpeller et les entendre. Quand il a des indices sérieux de culpabilité, il peut directement saisir la juridiction compétente pour cette personne. Ce n'est pas nécessairement la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle, puisque la personne ne bénéficie plus du privilège de juridiction, c'est un citoyen ordinaire. Il sera sur la juridiction du lieu de résidence de la personne et qui est compétente pour ce genre d'infraction qui sera saisie par le procureur général de la République. En ce qui concerne les anciens ministres devenus députés, tous qui sont députés, ils sont donc couverts par des immunités parlementaires. Le procureur général de la République, avant de les convoquer, avant d'ouvrir une action publique, il doit d'abord, par une réquisition, demander l'autorisation des poursuites qui doit être accordée par l'Assemblée nationale dans l'état d'esprit. Donc l'Assemblée nationale a donné l'autorisation des poursuites. Le procureur général de la République va commencer maintenant à inscrire le dossier, à poser des actes de sa compétence, notamment la convocation des intéressés, la convocation des témoins, la confrontation des personnes, les enquêtes sur le terrain, etc. Dès qu'il a clôturé l'instruction préjudicielle, il doit une deuxième fois demander l'autorisation de l'Assemblée nationale, cette fois pour mettre en accusation l'ancien ministre devenu député devant sa juridiction ordinaire qui est en l'occurrence la Cour de cassation, donc la Cour suprême de justice. Donc, vous voyez qu'il faut distinguer deux cas, selon que les ministres sortants sont devenus des citoyens ordinaires ou ils sont devenus des
députés. Voilà.
Et la procédure se fait là. Alors, il y a un autre auditeur qui a posé la question de savoir qui déclare la démission du ministre.
Oui, le ministre, alors, oui.
Voilà. Maintenant, c'est une autre procédure. Ça concerne maintenant le ministre entrant, ceux qui sont donc en fonction. Alors, eux, quand ils entrent en fonction, dans les 30 jours qui suivent l'entrée en fonction, ils doivent faire cette déclaration. Quand 30 jours sont dépassés, ils n'ont pas fait la déclaration, la loi dit qu'ils sont réputés démissionnaires. Il s'agit d'une démission de plein droit. D'une démission automatique. Il n'y a aucun organe qui est habilité à constater ou à la demander. Donc, les 30 jours sont dépassés, le ministre doit automatiquement déposer sa démission, soit qu'il y ait besoin qu'un autre organe puisse constater cela, parce qu'il s'agit d'une démission automatique. Voilà la réponse que je peux ça de réserver à notre auditeur.
Ok, il y a Dr Richard qui est ici à Kinshasa et Charles à Kinshasa. Nous allons revenir à vous, messieurs, pour votre point de vue. Je rappelle qu'ensemble, avec vous, nous réfléchissons sur la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions. Cela concerne le président de la République et les membres du gouvernement, comme le prévoit l'article 99 de la Constitution. Et je vous rappelle, on va vous rappeler que le MLC a déposé un mémoire. Bien sûr, le groupe parlementaire MLC allié a posé un mémorandum auprès du procureur général de la République demandant les procédures judiciaires contre les membres des gouvernements. certains membres du gouvernement Gizenga et Mouzito de n'avoir pas déclaré leurs avoirs à la sortie, bien sûr, de leurs fonctions. Que pensez-vous de la déclaration de ces avoirs? Vous pouvez intervenir en direct au 081-890-6315, mais le faire également par l'adresse pa@radiocapi.net, mais pourquoi pas aussi la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, de poser un commentaire qui pourra être exploité dans cette émission.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, nous avons Dr Richard Pika Kinshasa et Charles Kisa Kinshasa aussi. Dr Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à notre invité et bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Oui, moi je trouve que cette démarche est à encourager parce que les avoirs de ceux qui gèrent la République doivent être connus. C'est mieux aussi qu'on les comme au Sénégal. Pourquoi? Parce que la caisse de l'État n'est pas la caisse de ceux qui gèrent la République, mais c'est la caisse de du peuple. Voilà. Alors, moi je dis aussi que l'MLC, dans sa requête, est assez sobre. Pourquoi ne pas prendre en compte le rapport Mayobo? Pourquoi? Pourquoi ne pas prendre ça, le rapport Mayobo? C'est 1 milliard et quelques qui étaient détournés. On n'a jamais regardé là-dessus. Pourquoi ne pas aussi aller prendre le dossier bien mal acquis et assassinat? Parce que le volet bien mal acquis est payé. J'ai appris ça de la bouche de M. Mende quand il sortait du gouvernement qui a fini son mandat en 2011. Okay? Pourquoi ne pas aussi aller auditer dans les entreprises publiques? Je crois que c'est une façon d'aider le Premier ministre qui n'a pas mis dans son canevas le recouvrement de l'argent de l'État auprès de ceux qui ont mal géré, comme son homologue de Niamey, qui est allé faire le recouvrement forcé auprès des anciens mandataires de l'État, et ce Premier ministre a fait plus de 3 milliards de recettes. Pourquoi ne pas aller plus loin? Ils sont modestes, pourquoi? Merci beaucoup.
Merci, Dr. Richard. Vous pensez qu'il fallait que le MLC puisse aller plus loin parce qu'il y a eu le rapport Mayobo qui parlait d'une évasion de près d'1 milliard de dollars, hein, tout ça, il faut permettre à ce que cet argent soit recouvré pour les comptes du Trésor public et aider le gouvernement actuel. Merci beaucoup, Dr. Richard. Nous restons chez Kinshasa avec Charles. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Charles. Que pensez-vous de la déclaration de ces avoirs?
Bon, je crois que la démarche est bonne. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Je me pose souvent la question de savoir pourquoi ça devient un sujet tabou lorsque le MLC, d'abord, il est reconnu, il est connu de tous, que ce n'est pas seulement le MLC qui peut se suivre la Cour de cassation, n'est-ce pas, ou la Cour suprême de justice, mais c'est tout citoyen qui peut, se suivre la Cour de cassation. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que si chez nous, nous avons un problème très sérieux, nous avons un problème de base, qui est un problème d'impunité. C'est-à-dire, l'appareil judiciaire, n'est-ce pas, est en panne des années. Et il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, au poste de responsabilité au service de l'État, ils transforment la caisse de l'État pour un portefeuille privé. Et ils considèrent l'État comme un instrument d'enrichissement personnel. Moi, je trouve qu'il est important que cette démarche qu'a entrepris le MLC par l'honorable Babalé, n'est-ce pas, soit poursuivi de cette façon pour qu'il y ait une certaine transparence, n'est-ce pas, à la gérance publique. Parce que il y a de cela 11 ans, si je ne m'abuse pas, que ces pouvoirs, les tenants du pouvoir, le président de la République, avec toute son équipe gouvernementale, vous avez remarqué qu'il y a une certaine malversation, n'est-ce pas, aux affaires publiques. Alors, on se demande quelle est la part, n'est-ce pas, du chef de l'État pour, n'est-ce pas, qu'il y ait des sanctions réservées vis-à-vis de certains ministres et certains membres du gouvernement qui n'ont pas assez bien travaillé. Et cela devait être très important pour que la justice, n'est-ce pas, de notre pays puisse commencer à interpeller, à demander à ceux, n'est-ce pas, qui ont transformé la caisse de l'État pour un portefeuille privé, n'est-ce pas, que ce soit un bon exemple, un bel exemple pour qu'ils soient, n'est-ce pas, aujourd'hui, être en mesure de pouvoir déclarer leur patrimoine à la Cour
constitutionnelle.
Je trouve qu'il est très important cette démarche. Nous devons, pas seulement l'MLC, mais tout citoyen congolais, n'est-ce pas, en mesure aujourd'hui de saisir la Cour de cassation et pour que ces ministres et d'autres membres du gouvernement puissent aller déclarer leur patrimoine, leur avoir.
Merci. Merci beaucoup, Charles. Là, c'est une bonne démarche, mais vous pensez qu'il faut, comme les autres ont dit, il faut aller plus loin pour que toute la population soit impliquée. N'importe qui peut saisir, que les gens puissent avoir cette idée, qu'ils sont à mesure de le faire. Ce n'est pas seulement réservé aux politiciens. Mais votre idée, c'est d'aller un peu plus loin dans les enquêtes pour savoir qui a fait quoi et comment la justice peut être rendue. Nous allons à Lubumbashi. Didier, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Didier, beaucoup de compatriotes soutiennent la démarche et les bonnes, mais ils souhaitent que en cas de soupçon, qu'on puisse aller avec la justice jusqu'au bout. Mais pensez-vous, comme Johnson qui est avocat à vous, Johnson Alain, qui dit ceci, pour lui, le fait d'avoir déclaré les biens ne signifie pas que les gens vont cesser aujourd'hui de détourner les deniers publics, ni même de mettre la main dans la caisse de l'État. Pensez-vous vraiment que la déclaration à elle seule suffit pour corriger les erreurs dans la gestion du lieu?
Oui, en tout cas, je suis extrêmement d'accord avec tous les auditeurs qui venaient de parler sur la question très importante. Non seulement, je voudrais soulever une question aussi très importante, parce que je m'en souviens une fois lorsque monsieur le président les États-Unis, Obama était passé en Afrique, il avait dit que l'Afrique n'avait plus besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes pouvant donner à leurs États un souffle des élections. Voilà. Je suis extrêmement d'avis, mais seulement je m'inquiète d'une seule chose. Est-ce que ces démarches pourront atteindre les buts poursuivis par les opposants? Parce qu'on ne peut pas subjuguer à tout un peuple de ne pas donner leur point de vue aux situations qui concernent la République, moi je ne crois pas. Sinon, ce serait un désordre. Nous pensons que la démarche du gouvernement présent était tellement saluée parce que le présentait, elle déclarait leur bien. Mais faudrait-il aussi savoir si ces déclarations sont fiables, si ces déclarations sont vraies. Parce que je ne pense pas, je pose aussi, j'en profite également l'occasion de poser cette question à notre invité. Est-ce qu'il y a-t-il une procédure après la déclaration et poursuivre si lesquelles déclarations ne paraissent pas convaincantes, s'il y a au moins une procédure? En tout cas, moi, pour finir, je voudrais dire que, vous savez, la loi, c'est comme une toile d'araignée qui capture les petits insectes, mais le gros insecte perce. Et je vous jure qu'un géant politique comme je vous dis, va se faire inquiéter par la justice congolaise, j'en doute. Dernièrement, il y a eu un problème au niveau de l'Assemblée nationale, lequel problème impliquait même les responsables, comme le président de l'Assemblée, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le détournement des données publiques. Mais jusqu'aujourd'hui, aucune suite favorable à la nation. Je m'inquiète, franchement.
Voilà. Didier, vous êtes très inquiet, vous avez peur que la justice puisse fonctionner à double vitesse. Vous ne pensez pas vraiment que c'est possible que les anciens ministres, ou soit qui sont devenus députés aujourd'hui, puissent être poursuivis, parce qu'il y a d'ailleurs cette inquiétude aussi. Il y a eu plusieurs rapports dans le temps sur la gestion, le détournement des fonds. Les enquêtes se sont arrêtées quelque part. Il n'y a pas eu poursuite judiciaire. C'est votre inquiétude. Mais vous avez posé la question, professeur, de savoir s'il y a un mécanisme de vérification, j'avais déjà posé cette question, pour se rendre effectivement compte des biens qui sont déclarés, si ce sont ces biens-là, effectivement, qui appartiennent, que ce soit au président de la République ou bien aux membres du gouvernement. Nous avons Gabriel qui est à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, M. Pierre et la Magie. Je salue tous les opatis qui sont à l'écoute à ce moment.
Merci, Gabriel. On vous écoute.
Oui, bon, je voudrais... je sais que c'est une question vraiment de haute politique parce que ça touche la majeure partie de la politique de notre politicien. Déclarer les avoirs, moi je trouve que vraiment ça ne serait pas possible parce que nos politiciens sont habitués à déclarer le mensonge. Mais maintenant, j'ai cependant deux questions à poser à notre invité. Qu'adviendra-t-il au moment où tous les ministres, les anciens comme les nouveaux qui sont en fonction, ne déclarer pas leurs avoirs? Est-ce qu'ils vont démissionner d'eux-mêmes parce que je sais que nos politiciens n'ont pas la culture de démission? Il y aura un arrêt de la Cour pour pouvoir les pousser à pouvoir démissionner. La deuxième question, qu'est-ce que nous recherchons dans la déclaration des biens des ministres? Parce que je sais que l'enrichissement illicite, c'est vraiment notre monnaie courante. Est-ce qu'ils auront le courage de déclarer? Parce qu'aujourd'hui, je connais au moins la liste civile du président du Sud-Africain. Je suis sur Radio France Inter, la liste civile du président du Sud-Africain, la liste civile du président nigérien et d'autres encore. Mais au Congo, on n'a jamais, même du temps de Mobutu, connaître la liste civile d'un président qui dirige le Congo. Est-ce que c'est aujourd'hui que nos politiciens auront le courage de pouvoir déclarer ses avoirs?
Merci Gabriel. Deux questions. D'abord, vous dites que vous ne croyez pas que les gens puissent déclarer réellement ce qu'ils ont comme bien. C'est difficile. Vous devez poser la question de savoir, ça c'est par rapport à ce qui a été répondu par les professeurs, qui, si tous les membres n'ont pas à déclarer, tous les membres d'entrant ou comme sortant n'ont pas de qu'est-ce qui va advenir, le professeur a expliqué pour dire, si on ne déclare pas, et si le gouvernement ne déclare pas, il est réputé démissionnaire. Si à la sortie, tous ne déclarent pas, ils doivent être arrêtés. Mais qui doit, en principe, déclarer le gouvernement démissionnaire? Vous avez, le professeur a dit, c'est une démission automatique du membre du gouvernement de lui-même. Et puis, vous êtes très, très inquiet pour, et vous voulez savoir qu'est-ce qu'on cherche vraiment derrière la déclaration. Mais est-ce que c'est sûr que les gens vont déclarer réellement ce qu'ils ont? On va écouter Christian qui est à Kondroma, en province orientale. On va revenir à notre invité. Christian, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierre.
On vous écoute, Christian.
Oui, ma préoccupation est également cherche à soutenir mon prédécesseur. Il y a actuellement, nous avons déjà le gouvernement Matata. Bon, d'ici quelques matins, vous allez voir, on va commencer à remanier le gouvernement. Maintenant, ce ministre qui sera remplacé, quand est-ce qu'il va maintenant déclarer leurs avoirs? C'est ça mon inquiétude. Parce que avant même, on avait commencé par Antoine Gizenga, après Antoine Gizenga, nous avons connu aussi des remaniements. Et nous avons également connu les remaniements à l'époque de Adolphe Mouzito, où il est devenu Mouzito D. Alors, tous ces engouements des remaniements des ministères, des gouvernements, alors, on ne faudra pas, il n'y aura pas de on n'a pas de l'ordre.
Voilà. Christian, vous avez peur des fois qu'on s'intéresse plus à la déclaration quand il s'agit de ces nouveaux gouvernements qui est formé et qu'il y ait tous ces remaniements, des fois un ou deux ministres qui quittent le gouvernement. Vous avez peur et en cas de remaniement, les gens ne puissent pas déclarer, soit le ministre qui entre, soit le ministre qui sort. Mais là, il y a un problème d'inquiétude des auditeurs. Nous allons en parler avec l'invité tout de suite pendant que Jean-Pierre Kétissa Kinshasa garde la ligne. Jean-Pierre, nous allons revenir à vous. Le temps de écouter le professeur par rapport aux préoccupations de ce deuxième groupe des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Professeur, vous avez suivi ces auditeurs au-delà de procédures. Il y en a qui ont déjà compris, ceux qui sont revenus sur les procédures, vous avez déjà expliqué, mais il y a un problème, c'est par rapport à l'inquiétude des auditeurs. Il y en a qui disent que par la première fois qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont détourné, on a évoqué des exemples comme de Pierre Richard avec le rapport Bayobo sur les milliards de dollars. Il y a même l'MLC qui a parlé des enquêtes parlementaires. Alors, la peur des auditeurs, c'est comment ils peuvent avoir cette garantie au cas où il y a des soupçons d'enrichissement illicite, la justice peut leur donner des garanties d'aller avec les procédures jusqu'au bout pour poursuivre les uns et les autres. Mais il y a cette question importante, c'est le point de vue d'un auditeur de Bukavu Alain qui dit ceci, pour lui, il a peur qu'est la déclaration, elle ne suffit pas pour faire arrêter que ce soit le détournement de fonds ou la médiation.
Bon, merci, cher ami. Les auditeurs ont exprimé beaucoup de préoccupations, les unes aussi complémentaires que les autres. Je pense que la préoccupation principale ici, c'est l'inquiétude qu'ils expriment devant l'issue que pourrait connaître la procédure initiée par l'UMLC. Mais je crois que la meilleure réponse, c'est de dire attendons, ne soupçonnons personne. Ne préjugeons pas non plus de ce que le procureur général de la République va faire. Je pense que le procureur général de la République, qui a la maîtrise de son calendrier, ne nous dira pas qu'il a quand même été saisi et que le citoyen, la population, attend qu'il puisse se mettre en mouvement pour pouvoir déclencher les poursuites éventuelles. Maintenant, les préoccupations qui reviennent autour de l'indépendance, de la justice, etc., tout cela est connu. Mais ne restons pas dans les soupçons, il faut mettre l'argent devant les responsabilités, et dans le cas d'espèce, comme le procureur général de la République a été saisi, attendons. Maintenant, les questions qui sont posées concernant la procédure, ça je l'avais déjà dit, je l'ai déjà répondu. En ce qui concerne l'extension des enquêtes sur les différents rapports qui ont déjà été produits, que ce soit le rapport Maillot-Bello, le dossier sur les biens mal acquis, d'autres rapports, etc. Ça, il appartient au procureur général de la République, dans le cadre de ces enquêtes, de pouvoir aller constituer ces documents-là. Mais il faut qu'il s'agisse de documents qui sont en rapport avec les personnes qui sont poursuivies devant lui. Donc, le procureur général de la République, une fois qu'il obtient l'autorisation de poursuite, il a tout à fait un champ libre pour pouvoir rechercher toutes les preuves d'enrichissement sans cause, toutes les preuves de bonne gestion des affaires publiques. Il a tout à fait la latitude. Mais alors, l'auditeur pose la question en cas de déclaration frauduleuse. Parce qu'il a dit qu'on est sûr que ces déclarations sont sincères, exactes, vraies. Oui, la loi, la Constitution prévoit l'hypothèse de déclaration frauduleuse. Lorsqu'il y a une déclaration frauduleuse, on peut saisir également la Cour. Mais quand est-ce qu'on se rend compte de la déclaration frauduleuse, on s'en rend compte le jour où on fait la comparaison entre la déclaration à la sortie et la déclaration à l'entrée. Ou, de manière générale, lorsque on se rend compte que, dans la pratique, la personne brasse énormément de richesses, parce qu'il donne, par exemple, des signes extérieurs de richesses, qui n'a pas pu déclarer ni dans la déclaration à l'entrée, ni dans celle à la sortie. Donc, de ce point de vue-là, le pouvoir du procureur général de la République est tout à fait large et nous pouvons connaître aussi ces déclarations sans frauduleuses ou non. Les auditeurs ont posé également la question sur l'implication du président de la République dans la lutte contre l'impunité. Mais oui, il a également une mission. Mais il ne peut pas se substituer aux organes de la justice qui doivent faire leur travail. À son niveau, il peut, à la limite, prendre des sanctions de nature politique, mais en ce qui concerne les sanctions de nature judiciaire, ça c'est le pouvoir judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Un autre auditeur a posé la question de savoir si on peut connaître la liste civile du président de la République. Bon, la liste civile du président de la République est bien prévue dans notre constitution. C'est une institution un peu monarchique hein, qui existe dans des royaumes, mais nous avons récupéré ça. Et effectivement, on peut la connaître parce que la constitution prévoit, je crois que c'est l'article 89, que aussi bien la liste civile que les émoluments du président de la République sont fixés par la loi des finances. C'est-à-dire que le Parlement qui vote le budget et qui vote le président de la République des moyens de son fonctionnement, ce qu'on appelle la liste civile, et des émoluments, c'est-à-dire de son salaire. Donc tout citoyen peut lire le budget de l'État, soit publié d'ailleurs au journal officiel, et savoir à peu près, je ne dirais pas juste dans le détail, parce que le détail se fait au niveau de l'exécution du budget au sein du gouvernement, mais les grands agrégats figurent dans le budget de l'État qui est publié chaque année au journal officiel. Donc le citoyen peut aussi faire le savoir.
Voilà, il y a cette question de l'auditeur qui a dit, comme je vous avais demandé ça, est-ce que la déclaration à elle seule suffit vraiment pour qu'un membre du gouvernement puisse me dire voilà, j'ai déclaré, désormais je cesse des pratiques, par exemple des détournements, tout ça, mais je veux aussi compléter, avant qu'on écoute un auditeur qui est en ligne, je veux aussi compléter cette inquiétude de mon auditeur, c'est par rapport à ce qu'un membre du gouvernement peut acquérir, bien sûr, sur le compte de quelqu'un d'autre, il peut peut avoir des immeubles, il peut construire, mais en mettant les noms d'autres personnes, comment pourrait-on se rendre compte? Quelqu'un peut dire j'achète, mais je n'aime pas mon nom, c'est quelqu'un d'autre qui endosse, et pourtant, ça appartient à un membre du gouvernement. Voilà un peu tout ce qui peut accompagner ces dossiers de déclaration.
Votre correspondant est en communication.
Voilà, on a perdu, je crois, notre invité sur sa ligne, je crois bien. Peut-être que la réalisation pourra voir comment récupérer le professeur Gaspard Ngonankoy. Le temps qu'on écoute Jean-Pierre Kitakinkasa, mais nous allons d'abord lire les messages de Franck qui est à Vienne en Autriche. Il dit ceci, c'est une bonne initiative, c'est bien que les membres de l'actuel gouvernement aient déclaré leurs biens avant leur entrée en fonction, même dans des états, des vieilles démocraties, ça se passe ainsi. Mais notre crainte, notre réserve à ce propos est qu'il n'y ait pas du suivi. Combien de fois n'avons-nous pas assisté à des telles scènes? Nous souhaitons cette fois-ci voir d'abord des effets de certaines initiatives parlementaires avant de croire à la bonne volonté des uns et des autres. Quelle est cette commission qui s'occupe de cette déclaration des biens des ministres avant leur entrée en fonction moyennant quelle crédibilité? Quelles sont ces garanties que ces membres donnent-ils au peuple? Patrick Malemo dit ceci, je propose aussi la mise en place d'une commission de vérification qui pourra certifier la conformité entre les biens déclarés et les biens réels se trouvant sur terrain. Brem Usanda de Goma, toutes ces déclarations sont bonnes, mais le problème, c'est l'impunité. Un cas de détournement de fonds. Jean-Pierre est ici à Kinshasa. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6315 pour intervenir. Et nous allons vous accorder la parole autour de la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Jean-Pierre, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jean-Pierre.
Alors moi, je voulais intervenir sur le problème de la déclaration des biens avant l'exercice des fonctions et du moment que le MHC et l'IO ont déposé à la Cour suprême de justice.
Mmh.
Alors, je voudrais d'abord savoir que si tout cela est là, comme tel, parce que la population, le peuple congolais est vraiment inquiet sur la façon que les biens vitaux sont gérés. Alors, je me pose la question de savoir si n'a-t-il pas un mécanisme constitutionnel capable de protéger les biens de l'État? Parce que si on arrive à de telles interventions des partis, c'est tout à fait normal, parce qu'on veut être rassuré de la façon que les biens de l'État sont gérés dans notre pays.
Mmh.
Autrefois, on a vu il y a eu des détournements, mais ça n'a pas abouti vraiment à des procédures juridiques. Alors, là, je suis d'accord sur l'intervention de MLT allié dans ce sens. Et je voulais aussi me poser la question de savoir pourquoi il y a des gens qui ne sont pas d'accord si ce mécanisme peut intervenir pour protéger l'État. Alors, les gens qui s'opposeraient à ce principe, je crois, ils doivent être quand même soupçonnés par la justice, mais doivent être poursuivis. Dans le sens qu'ils ne veulent pas que les biens de l'État soient protégés. Et c'est dans ce sens-là que je voulais intervenir.
Merci. Merci, Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Vous vous inquiétez, vous voulez savoir s'il y a un mécanisme constitutionnel pour protéger les biens de l'État. Et d'ailleurs, vous soutenez la démarche du MNC, mais vous vous rendez compte que si jamais il y a des gens qui s'opposent à une telle démarche, c'est que ces gens-là ne veulent pas que les biens de l'État puissent être protégés. Vous souhaitez aussi, comme tous les autres auditeurs, qu'une procédure puisse aller jusqu'au bout et que la justice soit rendue en cas, bien sûr, de ceux-là qui ont pu mettre la main dans la caisse de l'État et qui n'ont pas pu déclarer leurs biens à la sortie. Et bien sûr, nous avons Docteur Maïli qui est en Belgique. Vous êtes en ligne, Docteur, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes précisément dans quelle ville, Docteur?
Je suis à Bruxelles.
Vous êtes à Bruxelles. On vous écoute par rapport à la déclaration de ses avoirs.
Oui, bon, en tout cas, d'abord, c'est une très bonne chose.
Mm-hmm.
Parce que, bon, Pour moi, je crois que d'abord, tout le ministre et le mandataire des entreprises publiques de l'État, on doit d'abord connaître leur salaire. En connaissant d'abord le salaire de ministre, que soit premier ministre, secrétaire d'État ou consort, leur salaire, on peut savoir quand ils achètent quelque chose, c'est en fonction de quoi ces gens-là achètent des immobiliers qui coûtent par exemple 100 000 ou bien 200 000 euros. Ici, par exemple, en Belgique, on voit, comment ces anciens ministres achètent des maisons ici et puis en cash. Je ne sais pas si c'est le nom qui a le téléphone, parce qu'il faut avoir aussi des preuves tangibles pour prouver que
on
voit les membres des familles, des ministres et tout consorts qui habitent la maison et qui disent que non, c'est leur maison achetée en cash. Alors que ici, 80% des gens achètent des choses en cash et ils achètent en cash. Donc, mais voir même au Congo ce qui se passe à Kinshasa, à Lubumbashi, tout ça, on voit comment ils construisent les maisons. On a vu les députés Jekoko, comment il a fait des révélations, mais qui jusqu'à présent ne sont pas encore, je peux dire, des preuves tangibles. Mais le procureur général, la police financière, c'est existe directement. Du moment où on dénonce déjà quelqu'un, il peut déjà saisir des problèmes. Il ne faut pas attendre que les gens puissent déposer plainte.
Voilà, merci.
Voilà, par exemple, la Russie. L'enregistrement visible, que quelqu'un, il y a des signes de mal. Ici, en Belgique, par exemple, quand on voit, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, qui roule, par exemple, avec une belle voiture là, qui coûte dans les 40 000, 50 000. Mais la police entière doit savoir d'où provient l'argent que cette personne-là a acheté cette voiture. C'est pourquoi, parfois, on arrête des gens, on a arrêté tel, parce qu'on a dit que non. Il voulait, par exemple, avec une voiture aussi, qui coûte au-delà des 40 000. Mais au Congo, on voit ça. Mais pourquoi la police financière ne peut pas se saisir directement?
Merci beaucoup, Dr Maïle. Vous pensez qu'il serait mieux qu'on rende public les salaires des ministres, les salaires des mandataires, mais vous dites aussi que vous voyez des dignitaires congolais qui achètent des maisons en Europe, par exemple, en cash, et pourtant, ceux qui sont sous place achètent à crédit, et vous vous inquiétez de tout cela. Il faudrait que le magistrat, le procureur général de la République, il faudrait que la Cour des comptes, par exemple, la police financière, évoquer tous ceux qui peuvent vous profiter pour se saisir des dossiers au cas où il y a un soupçon d'enrichissement illicite. Nous avons des difficultés à joindre notre invité, mais on tend déjà vers la fin de cette émission. Nous allons écouter Polycarpe qui est en Bougimayo, Kassai Oriental. Bonjour, monsieur.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute, vous avez, je crois bien, une minute et demie parce qu'on est à la fin de l'émission pour votre point de vue, Polycarpe.
Je suis particulièrement heureux d'avoir suivi cette intervention des députés. Ils ont bien pensé à un bon moment à cette situation qui nous fracasse tous. On détourne les deniers publics et ceux qui détournent les gèrent au vu, au su de tout le monde et personne ne s'inquiète. Moi, j'aurais proposé quelque chose à ce sujet. Il est vraiment indispensable que cet article 99 de la Constitution soit accompagné par des lois qui généralisent la situation sur tous les gestionnaires de biens publics du Congo. Que cela arrive jusqu'au niveau de gestionnaires des entités décentralisées. Parce qu'il n'y a pas que des ministres qui gèrent.
Oui.
Il y a le gouverneur, il y a le maire, il y a le bourgmestre, il y a toutes les autorités aussi. Alors j'aurais souhaité qu'il y ait des lois qui prévoient que lorsque tout gestionnaire entre dans ses fonctions, qu'il puisse déclarer ses avoirs et qu'on ait des possibilités de suivre par la suite pour savoir ce qu'il en a fait et qu'est-ce qu'il a fait de ce qui appartenait à l'État.
Voilà, merci Polycarpe. D'ailleurs, c'est le point de vue de Pochombil qui nous a écrit, qui est au Rwanda. Il dit ceci, cette démarche est légitime. D'ailleurs, je souhaiterais qu'on puisse modifier la loi en élargissant la liste de ceux qui doivent déclarer leurs avoirs, comme aussi les officiers supérieurs de l'armée, de la police, les gouverneurs, les ministres provinciaux. Tous, en principe, ils doivent déclarer leurs avoirs. Ça, c'est le point de vue qui rejoint Polycarpe de Mbujimayi. Il ne faudrait pas seulement que ce soit le président de la République et les membres du gouvernement central. Hein, tous ceux qui gèrent doivent déclarer leurs biens. On termine avec vous, Samy. Vous êtes à Songololo. Bonjour, Samy.
Bonjour, papa.
On vous écoute rapidement pour terminer cette émission.
Voici ma contribution. Moi, je vois que il y a un cadenas qui était bien fermé dont la clé est disparue. C'est-à-dire que ceux qui sont censés gérer les affaires civiles de l'État, la justice est incapable. Ils n'ont même pas un bon filet pour attraper tous ces gros poissons qui mènent dans l'eau la corruption et des détournements. Pourquoi? Parce que nous avons fait une histoire bizarre avec l'ancien ministre de justice, Papa Zolo, quand nous avons fait les formations, c'était irrégulable. Donc la justice se trouve incapable de trouver une solution favorable pour s'assurer le peuple congolais. Et cela prouve que maintenant, l'MLP a fait un bon travail, mais ça ne peut pas vous dire, parce que la queue est bien fermée, puisque nous sommes à la base, tous ces gens-là, même dans une zone-là, de la corruption et des détournements, il n'y a pas fait un filet.
Merci Samy. Vous avez peur. Hein. Vous dites que la démarche de l'MLP c'est bien, mais votre peur, c'est que le système est verrouillé, qu'il sera difficile de pouvoir mettre la main sur tous les dignitaires, que ce soit les anciens ministres qui sont accusés de détournement, de fonds ou d'enrichissement illicite. C'est votre point de vue. Vous êtes à Songololo. Nous disons merci à Aziz Akieta Kamina et Etienne de Guémena. Nous n'avons pas eu l'occasion de vous faire passer sur les antennes. Mais nous disons également merci au professeur Gaspard Ngondako, et qu'on a perdu vers la fin de cette émission, qui a éclairé les auditeurs sur le mécanisme hein, et tout ce qui touche à ce dossier et de la déclaration de ses avoirs avant et après l'exercice de ses fonctions. On vous dit tous merci, auditeurs de Radio Capi, pour avoir participé à cette émission.
Allô? Mais il ne répond pas.
On se retrouve demain, mardi 5 juin, pour une nouvelle émission. Au cours des manifestations des commémorations du 10e anniversaire de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, les défenseurs des droits de l'homme ont relevé qu'il y a encore, entre autres, des défis majeurs à relever quant à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Que faire pour une protection effective des défenseurs des droits de l'homme? C'est le sujet au centre de l'émission Parole aux auditeurs demain mardi. Merci à Titi Poutou et Jocelyne Sungo pour la réalisation de cette émission mise en onde par Paul Badenama. Nicole Ngaka a assuré la supervision. Vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net mais aussi en rediffusion à 20h, heure de tout à part. Au revoir.